Wartet!
Groovy!
Bonjour! Au menu de la récré des papous, une nouvelle séance pour notre petit rimailleur illustré, session d'automne. Et les mots nouveaux pour le dire de Dil Conseil, traduit par Jacques Bertrand.
Gros Milou, c'est une recette.
De quoi ?
C'est le sauté de veau maringot accompagné de riz semi-complet. Il y a du riz complet, du riz semi-complet.
Oui, qu'on fait cuire ni autant que le riz totalement complet, mais un peu plus que le riz qui ne l'est
voilà,
pas du tout.
C'est du riz incomplet.
Un modèle de lettre de licenciement aussi, ça peut servir. L'histoire tout en SMS de Ricardo Mosner, coucou Frida. Et le DLA, un piège littéraire proposé par Serge Joncourt à quatre experts dont Sophie Divry et Dominique Muller.
Je vois ça plutôt comme un écrivain américain qui a fait du cinéma, qui était scénariste, et donc il est en train exactement de raconter comment ça se passe dans une salle de montage. Voilà.
Sauf à la fin, c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie. Il n'y a pas un style non plus.
In my fucking life, c'est pas vrai.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Ravis de votre fidélité à nos jeux papous. Et bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois. Une émission à podcaster sur franceculture.fr pour une réécoute quand l'envie vous prend. Françoise Tressard et la belle équipe vous souhaitent un joli dimanche papou. Et au papou, on fait une petite pause dans la politique et le vocabulaire qui va avec. Et on s'intéresse à d'autres mots poétiquement nôtres. Pour les dimanches du dictionnaire, ce dictionnaire en cours, encore des milliers ou millions peut-être de mots à traiter, c'est le petit rimailleur illustré. Alors au programme de la session d'automne, deux rédacteurs, Gérard Mandilla et Lucas Fournier, accompagnés de leur contrôleur. C'est à vous de lancer la séance, Gérard Mandilla, avec un mot que vous aimez suffisamment pour avoir envie de le raconter en poème. Quel mot avez-vous choisi ?
J'ai pris le mot « arbre », car j'aime les arbres.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Ce sera du genre Brassens ?
Ah non, pas du tout.
Pas
non,
du tout.
Non, ça sera du genre rimé de temps en temps et ça sera du bois dont je fais les poèmes.
Bon, et c'est Jacques Jouet qui vous contrôle. Vous êtes déjà à l'arbre, Jacques Jouet ?
Non. Je suis ouvert à l'arbre. Ça s'annonce très très bien.
Il y a deux colonnes.
Ouh là là,
il y a de la matière.
Oui.
Il y a de la matière, on va voir. On vous écoute. Ça se présente.
Des vers libres, mais.
De Mirliton.
Des vers qui tantôt riment, tantôt ne riment pas, mais au fond, il y a tant d'arbres que je n'allais pas me contraindre à faire des planches de ce que j'écrivais. Donc, il y a une arborescence poétique.
J'adore Gérard Mandilla, parce qu'il a toujours une façon de se justifier, au fond, qui est assez imparable. Il le dit d'un ton très catégorique, en mettant des points. Donc, on pense toujours qu'il a raison. Je l'ai entendu dans des débats, il est pareil.
Il est docte.
Il est docte. Voilà.
Il est docte. Et contre le docte, c'est difficile
de lutter.
Tout est docte chez lui. Tout est docte.
Alors, reste la poésie de l'arbre.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, s'interrogeait du haut de son perchoir. Sur quelle sorte d'arbre était-il donc posé ? Il serait temps de le savoir. Habile trousseur de fables, monsieur de La Fontaine n'en dit rien dans l'histoire. Et le Corbac en avait de la peine. Était-ce sur un arbre à palabres ? Sans doute, puisque le renard venait causer dessous à la mode africaine. Était-ce un arbre à caoutchouc ? Peut-être, puisqu'on y prônait l'Avea corpus. Était-ce sur un arbre à pain ? Assurément, puisqu'il y avait un fromage. Était-ce sur un arbre de Judée, arbre du voyageur ? Disons plutôt arbre de Judas, en pensant au renard. Était-ce un conifère, un arbre de Noël ? Certainement, puisque sous lui, les enfants trouveraient une fable. Était-ce un arbre en fleurs ? Oui, en fleurs de rhétorique. Ce n'est même pas la peine de le souligner. Était-ce l'arbre du fruit défendu ? Oui, si l'Église veut bien admettre que, faute de pommes, un camembert ferait l'affaire. Était-ce l'arbre de la connaissance ? Comment ne le serait-il pas ? Car le corbeau savait déjà que sous la terre sont les racines, que le tronc porte les branches les rameaux, les ramilles, les ramures, que les bourgeons bourgeonnent et que les feuilles offrent aux amoureux ombre et fraîcheur et l'occasion de les voir à l'envers. Notre emplumé, sur son arbre perché, voulait en savoir davantage. n'avait-il pas, pour être informé, payé déjà sa leçon d'un fromage ? Était-il sous un chêne qu'on abat ou sous un peuplier qui plie mais ne rompt pas ? Sous un baobab, un orme, un bouleau, un cerisier, un pommier, un saule, sous lequel Musset, 6 pieds sous terre, attendait de voir briller l'astre de ses nuits. Il y avait tant de possibilités. L'arbre était infini et le baron perché. En tout cas, Maître Corbeau n'était pas sur un bonsaï, ou alors on l'avait miniaturisé, ni sur un arbre à cames, n'étant pas motorisé. Quant à l'arbre généalogique, Corbeau, fils de Corbeau, père de Corbeau, en détestait l'arithmétique, comme il refusait de penser qu'il puisse être sur la croix où l'on pendait au bois ceux condamnés à l'arbre du malheur. Non, Maître Corbeau, sur son arbre perché, frétillait des ailes tout à son bonheur d'être si confortablement logé par un fabuliste devenu sylviculteur. Restait à situer son arbre dans le paysage à peine esquissé. Rien n'était gravé dans le marbre. Où son arbre était-il donc planté ? Était-il dans le bocage, en Normandie, terre de fromage ? Était-il dans un bois, celui où le roi chasse le renard ? Était-il dans une forêt, sur l'arbre qui justement la cachait ? Maître Corbeau s'en souciait peu. Au fond, il s'en moquait. Perché sur son arbre, il vivait heureux et c'est tout ce qui comptait. L'arborescence l'indifférait, l'arboricole l'ennuyait, les arbrisseaux l'énervaient et jamais il ne se risquait de mettre son bec entre l'arbre et l'écorce. Maître Corbeau, du bois fit du papier, plumes et feuilles mêlées, écrivit cet ouvrage où l'arbre tout entier s'honora d'accueillir son ramage.
Somptueux, hein, chapeau, voilà. Très belle fable. Jacques Jouet, d'ailleurs, vous écoutez, il n'a absolument pas regardé le dictionnaire, si, un petit
très
peu.
Très habile, parce qu'en se demandant de quel arbre il pouvait s'agir, il a passé en revue tous les arbres.
Et donc, à la fin, c'est quoi comme arbre ?
Quelque chose à ajouter.
Il manque l'arbre à singe.
Ah, oh, vous êtes mesquin.
Le monkey tree, en anglais.
Avec
c'est
l'accent.
De l'anglais,
c'est de l'anglais. C'est de l'anglais,
c'est le désespoir des singes. Monkey tree, oui, le désespoir des singes.
C'est le désespoir monkey des singes, tree. Le monkey tree.
Ah oui. Et qu'est-ce qu'il
La rocaria.
La rocaria. La rocaria.
Et qu'est-ce qu'il nous dit, Jacques Jouet ?
Alors, il y a une très belle citation de La Fontaine. « Maître Corbeau sur un arbre perché. » Elle est
bien.
Des vraies fausses citations, peut-être, Eval Massy.
Oui, j'en ai et de fort anciennes. C'est d'Ève, tout simplement. Ah bah, et c'est dans la Bible. « Je viens de planter votre arbre généalogique. »
Bien sûr, Jacques Vallée.
Oui, j'ai une citation du Petit Pousset. Oui. L'arbre cachait la forêt, c'est comme ça que je me suis perdu.
Lucas Fournier, vous allez jouer avec un certain mot.
Oui, vous allez
et
jouer.
Ce mot, c'est Jacques Vallée qui le cherche dans notre dictionnaire de référence. Et c'est un mot que vous ne voulez pas nous annoncer.
Ah, mais c'est un mot joueur, alors il faut jouer.
D'accord,
il faut jouer avec
devinette.
Les mots de temps en temps. Oui,
ah, il y a quoi à gagner rien.
Vous allez l'entendre. Donc, voici en effet un nouvel invité, un verbe du premier groupe, et commençant par T. C'est un verbe tactile, mais n'est pas tricoté.
Toucher.
Toucher, non, pas toucher, quoique, c'est toucher un peu.
Tâter.
Triturer, tâter, on n'est pas loin. Non, c'est plus fin que tâter. Tâtonner, non, on n'est pas loin. Triturer, non. Enfin, si, d'une certaine façon. Tripatouiller, non, ce n'est pas le bon. Trafiquer, là, on s'éloigne énormément.
Oui.
Tripoter, non, plus doucement. Tété.
Ah.
Ah, on tourne avec délice. Bon, voici un autre indice pour trouver, sinon on ne va jamais y arriver. C'est aussi un verbe psychologique. Et là, ça se complique. Non, trépaner, non, traumatiser, torturer, c'est moins lourd. Tarauder, tarabuster, tournebouler, non, plus intime.
Traquer.
Tracassé ou turlupiné, troublé, non, plus infime. C'est un verbe qui joue, qui peut se nicher contre votre joue.
Titiller.
Mais ça, j'ai dit déjà, il y a une heure.
Ben oui, mais c'est le matin, je n'ai plus mon histoire. C'est un verbe qui joue, qui peut se nicher contre votre joue. Ou dans votre hypothalamus, on dirait que ça l'amuse. Et parlant de muse, s'il lui plaît d'aller chez Tali, Terpsichore, Erato et compagnie, butiner leurs appâts, il ne se gênera pas. C'est un verbe agaçant, mais pas désagréable. Tactile, mental, buccal, labial, digital, pas indécent, enfin si, parfois, enfin ça dépend comment on le fait, et avec qui, et avec quoi. Ça peut être taquin, et ça vient du latin. Hein, ce n'est pas taquiner, hein. Quoique maquiner me le fait par moments.
Ah, votre kiné.
Oui, chatouiller, non.
Zithérapeute.
On y est, mettez-y un thé. Ah, ça y est, le voici qui frétille et qui vous émoustille, en dessous de titi. Oui, titiller dans le dico. À côté de titisme, partisan de
Tito.
Tito. Titi et grominé, titille le robinet, oui, titiller. Eva, c'est lui. Sans lui, la vie serait moins excitante. Je ne sais pas s'il vous tente, mais j'avais du mal à résister à la titillation.
Bravo, Eva. Quelle sagacité. Ah ben, le traitement était de Lucas, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a un petit peu plus dans le dictionnaire, Jacques Vallée ?
C'est d'une simplicité biblique. Titiller, c'est une démangeaison légère et agréable. Comme il a dit que ce n'était pas désagréable, ça résume complètement.
Et il y a une citation ?
Oui, il y a une très belle citation de Théophile Gautier.
Non, il s'est intéressé à titiller.
Oui.
Bah, ça commence par T, ça finit par R, Théophile Gautier.
Oui, c'est quand même rare de trouver du Théophile Gautier, qui est un grand auteur méconnu. Ouais. L'œil allumé par la convoitise, les doigts titillés par d'irrésistibles envies.
Ouh là là!
C'est beau, c'est dans quoi? On le
ah
dit
non,
pas.
Mais ça doit être le capitaine Fracasse.
Ah oui.
Ou Émose Camé.
Oui. Ou le roman de la momie, allez, disons, pour se mettre d'accord.
On a une chance.
Qui aurait écrit comme ça au fil de la plume, en écoutant Lucas Fournier, une vraie fausse citation sur le mot titiller ou sur le mot devinette, puisqu'il s'agissait pour nous de deviner? Eva?
Mais c'est à l'état de devinette. Qui suis-je? Un verbe du premier groupe et du deuxième sexe. Et alors, vous devinez, c'est de Simone de Beauvoir, bien sûr.
Ah oui.
Ah oui,
ah oui. Bah, évidemment. Évidemment.
Qui n'ose pas le verbe.
Et c'est sur le mot
c'est
devinette.
C'est beauvoirisé, le verbe.
Oui, et Jacques Jouy, il a une citation pour titiller.
Oui, mais c'est dans les manuscrits de Jules Romain pour Knock.
Oui.
Mais c'est pas très lisible. Ah, hein. Ça commence par ça vous titille ou ça vous. Et là, j'arrive pas à lire.
Papou, c'est aussi dans ma tête et sur France Culture.
Et les papous, Jeanne, c'est aussi en public, au studio 105 de la Maison de la Radio. Prochain enregistrement, vendredi 9 décembre, de 20h à 22h30, Petit Papou Noël ou la fête avant les fêtes. Notre récré littéraire pour le sourire, le rire, les émotions, partagé avec vous. Côté scène avec moi, Jean-Bernard Puy, Jeanne Carillon, Lucas Fournier, Jacques Bertrand, Eva Almassy, Patrick Béni, Odile Conseil, Hervé Letellier, Jacques Jouet, Violaine Schwartz et Serge Joncourt. Et pour accompagner nos jeux en musique, Vadim Cher au piano. Nous serons 13, mais pas à la même table. Vendredi 9 décembre à 20h, les papous en public pour Petit Papou Noël, entrée par le hall A face à la scène. Réservation indispensable en appelant le 01 56 40 10 57. Renseignements à retrouver sur notre page Facebook et à la page des papous du jour. Après avoir fait entrer des mots aux définitions versifiées dans notre petit rimailleur, lançons des mots nouveaux sur le marché et voyons s'ils seront repris par la rue. Des mots que nous imaginons, papou dans la tête, comme autant de raccourcis de langage. Tenez, par exemple, l'ambistrature, qui est le moment précis où l'on ralentit le pas en se demandant si par hasard on ne se serait pas trompé de chemin. Avouez que c'est un mot nécessaire, mot signé Jacques Bertrand, Jacques Bertrand, qui sera d'ailleurs le traducteur des mots nouveaux d'Odile Conseil, parce qu'avant d'adopter, il s'agit de tester. Odile Conseil dans la peau d'une inventeuse de mots, six mots nouveaux, qu'elle fera vivre dans une histoire. C'est amusant, Odile, non?
Très.
J'adore votre forme de conviction.
Non, c'est aussi bien qu'inventer une recette de cuisine. C'est,
ah oui, moi, je trouve
créer,
ça
quoi, créer, formidable. Quoi.
Parce que quand on crée, après, on peut transmettre.
Ah, là, vous l'avez là bien dit, François.
Alors, c'est mon nouveau, des verbes, des substantifs, j'imagine.
Trois verbes, trois substantifs. Oui. Un verbe du premier groupe, se zanglader, pronominal.
Oui.
Un verbe du deuxième groupe, tuchir.
Tuchir. Tuchissant, donc.
Voilà. Mm-hmm. Et un verbe du troisième, gomouvoir.
Donc, gomouvoir, ça va faire...
Comme émouvoir.
Bon, c'est trois bons verbes. Hein. Enfin bon, je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que ça raconte plutôt des choses joyeuses, chacun, comme ça, à l'écoute? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça
ne
m'étonnerait pas, oui. Effectivement, ce soit un peu gai, oui.
C'est vrai. Gros mouvoir.
Go mouvoir.
Go mouvoir. Ah ben, c'est go beaucoup mouvoir. Mieux sans air, oui, vous avez raison. Et alors, les trois substantifs?
Nous avons un gros milou.
Ah, ah.
Nous rappelle absolument quelque chose.
Comme ça se prononce.
Oui.
Un shopping, certes d'origine
anglo-saxonne.
D'ailleurs.
Et enfin.
Une zomblivule.
Ah, pas mal, une zomblivule. Non, ah. Ça ne vous plaît pas, Lucas?
Ah, j'aimerais pas être piqué par une zomblivule.
On va voir si ça pique tout à l'heure. Alors, ces mots, vous les faites exister dans une histoire?
Je dirais même plus dans une lettre.
C'est bien.
Mon cher Pierre Albert. Ceci est un mot d'adieu. Je ne viendrai plus me zanglader chez toi, j'en ai fini avec tout ça. Tu m'as plu, c'est vrai, et j'ai pris goût à ton gros milou. Je t'ai ouvert mon cœur.
Non, mais tout de suite, vous pensez à des choses, Jean-Bernard.
Absolument.
J'ai pris
pas,
goût à ton gros milou, je vois tout de suite vos yeux qui deviennent égrillards.
Oui, parce que je vois un petit charme.
Ah bon, d'accord.
Je t'ai ouvert mon cœur, je ne t'ai rien caché, et si parfois j'ai ri de toi, c'est à cause de tes shoppings. Mais après toutes ces années, une forme de lassitude s'est installée entre nous. Je me rends compte que je tuchis de plus en plus souvent et qu'il m'arrive même de te raconter des zomblivules. Je te quitte en espérant qu'en souvenir de tous ces moments passés ensemble, tu auras l'élégance de gomouvoir. J'ai signé Natacha Pépin-le-Bref, si vous voulez savoir comment je m'appelle.
Enchantée.
Vous parlez d'une drôlerie.
Oui. Et il n'y a pas la moindre petite formule de politesse. Pourtant, on sent que quelque chose a existé entre eux.
Quand c'est fini, c'est fini, hein.
Ah ouais.
Il y a un gloumilou entre eux.
Ah ouais. On va vous traduire, vous savez. N'avez pas peur.
J'ai hâte.
Jacques Bertrand, je vous ai regardé travailler, vous étiez appliqué, consciencieux, comme vous l'êtes souvent.
Comme toujours, oui. Hein, oui.
Parce que cette lettre à mon cher Albert, écrite par Odile Conseil, truffée de mots nouveaux, de mots de son invention, mais elle était assez émouvante quand même. Donc, vous êtes intéressé à l'histoire, évidemment. Pour traduire les mots, on doit s'intéresser aux produits.
Ben oui.
Quel est le verbe ou le mot qui vous a fait sentir... la raison de cette histoire?
Bon, je crois que c'est zomblivule.
Ah oui, parce que...
Bah, ça m'a paru riche de...
Douloureux ça... aussi un peu, non?
Non, pas douloureux. Étrange plutôt, mais...
Alors on peut écouter votre décodage au mot à mot?
Oui, tout à fait. Alors c'est très simple. Se zanglader, c'est très simple, c'est pratiquer la méditation zazen.
Oui, ouais. D'où le Z, zangladez, zazen.
Ouais.
On est loin, on est près, Odile.
Oh, on se dit qu'on n'est pas si loin que ça.
Gros milou, c'est une recette.
De quoi?
C'est le sauté de veau maringot accompagné de riz semi-complet.
Ah, semi-complet, ça veut dire qu'il y a des grains de riz non complets mélangés à des complets?
Ah non, le riz, c'est du riz semi-complet. Ah, appelle. Il y a du riz complet, du riz semi-complet.
Oui, qu'on fait cuire ni autant que le riz totalement complet, mais un peu plus que le riz qui ne l'est
voilà,
pas du tout.
C'est du riz incomplet.
Et c'est la spécialité de Pierre Albert, donc.
Ah, très bien. Oui, on est...
On est très très loin.
On est très très loin.
Alors, shopping, c'est un problème de prononciation entre zozotement et bégaiement. dû à une trop grande émotivité.
Ah, comment on fait alors Forting on
dirait. Ah ben c'est pas moi qui le fais, c'est Pierre Albert.
Pierre Albert, il a pas de chance dans la vie, je trouve.
Je crois qu'il est mal barré. Ouais. Alors Tuchir, c'est se laisser aller à la mélancolie à l'heure du crépuscule.
Ah, ça nous arrive à tous. Hein.
Ça nous arrive à tous, mais il ne faut pas que ce soit trop souvent, quoi.
Ouais, c'est l'heure entre chien et loup. Ouais.
Il y a une parenté, il y a une petite parenté.
Avec Tuchir. Oui. Ah oui, avec votre Tuchir à vous.
Et alors, Zomblivule.
Donc, le mot qui a été déterminant pour vous. Hein.
Ce sont des haïkus traduits en serbo-croate.
Ah oui. Ouais. C'est plus long ou plus court?
Bon, ça, normalement, ça fait 17 syllabes. Sauf qu'elle en raconte beaucoup, apparemment.
Et le dernier mot?
C'est le verbe gomouvoir.
Oui.
Et gomouvoir, c'est continuer à verser une pension alimentaire indexée sur le coût de la vie.
C'est un grand classique, ça. Je sens une certaine amertume chez vous.
Là, on est tout à fait dans le domaine, en tout cas.
Ah oui, oui. Ce serait quoi cette histoire et quel titre lui donneriez-vous?
Alors, je vais donner un titre un peu long. Qui est « Je suis venu te dire comme dit si bien Verlaine ». Et donc, mon cher Pierre Albert, ceci est un mot d'adieu. Je ne viendrai plus pratiquer la méditation zazen chez toi. J'en ai fini avec tout ça. Tu m'as plu, c'est vrai, et j'ai pris goût à ton sauté de veau maringot accompagné de ruisseaux. Je t'ai ouvert mon cœur, je ne t'ai rien caché, et si parfois j'ai ri de toi, c'est à cause de tes zozotements et bégaiements dus à ta trop grande émotivité. Mais après toutes ces années, une forme de lassitude s'est installée entre nous. Je me rends compte que je me laisse aller de plus en plus souvent à la mélancolie du crépuscule. Et qu'il m'arrive même de te raconter les haïkus traduits en serbo-croate. Je te quitte en espérant qu'en souvenir de tous ces moments passés ensemble, tu auras l'élégance de continuer à verser ma pension alimentaire indexée sur le coût de la vie. Natacha Pépin, bref.
C'est un peu salope quand même, non.
On s'habitue aux pensions alimentaires, hein, apparemment.
C'est vrai, sûrement. C'est aussi noir que votre histoire à vous, ou plus?
Non, c'est une histoire de séparation, mais elle est peut-être un peu moins tragique que celle de Jacquard.
Oui, on peut avoir le sens de vos mots.
Se zanglader, c'est s'allonger sur un divan pour raconter ses rêves et d'autres choses éventuellement.
Donc on est dans la psychanalyse, peu ou prou. Hein.
Et on y reste. Oui. Le gros milou, c'est le divan sur lequel on s'allonge pour raconter ses rêves et d'autres choses éventuellement.
Et dans lequel on se lave. Donc gros milou, il y a quelque chose de chaleureux dedans. Alors. Pardon?
Ça ne se mange pas, donc.
Ah ben, c'est pas le sauté de veau, non, ou le sauté d'agneau, je sais plus.
Mon chalet mange, hein, les divans, mais...
Un shorping est un gargouillement intestinal plutôt gênant qui se produit dans un silence épais.
Sur un divan?
Ou sur celui qui est assis à côté? Tuchir, c'est regarder intensément le plafond en y cherchant une source d'inspiration pour savoir ce qu'on va bien pouvoir raconter sur un divan. Donc il y a un peu de la mélancolie, là, quand même, le fait d'être allongé... avec la mélancolie.
C'est quand même un vocabulaire professionnel.
Oui, ça, c'est... mais c'est un peu celui de la personne qui vient là sans trop savoir pourquoi elle vient aussi, non? Si elle doit tuchir.
C'est que sans doute le moment est venu de se séparer.
Oui, c'est ça.
En effet. Mm. Une zomblivule est un rêve qu'on invente pour faire plaisir à son psychanalyste. Mmh. Et gomouvoir, c'est ne pas faire payer la dernière séance.
Ah, c'est le contraire. On peut écouter l'histoire, oui.
On peut faire la même chose chez un dentiste, j'ai remarqué.
Ah ben parce qu'il ne vous renvoie plus
c'est
après.
Pareil,
donc
on regarde le plafond,
on raconte
n'importe quoi pour reculer la piqûre, enfin bref.
J'ai un moment pensé à faire ça aussi, où dans les verbes, il y aurait avoir la bouche ouverte en essayant de ne pas avaler sa salive, parce que...
voilà, c'est ça.
Mon cher Pierre Albert, ceci est un mot d'adieu. Je ne viendrai plus m'allonger sur ton divan pour te raconter mes rêves et d'autres choses éventuellement. J'en ai fini avec tout ça. Tu m'as plu, c'est vrai, et j'ai pris goût à ton divan sur lequel je m'allongeais pour te raconter mes rêves et d'autres choses éventuellement. Je t'ai ouvert mon cœur, je ne t'ai rien caché, et si parfois j'ai ri de toi, c'est à cause de tes gargouillements plutôt gênants qui se produisaient dans un silence épais. Mais après toutes ces années, une forme de lassitude s'est installée entre nous. Je me rends compte que de plus en plus souvent, je regarde intensément le plafond en y cherchant une source d'inspiration pour savoir ce que je vais bien pouvoir te raconter. Et qu'il m'arrive même de te raconter des rêves que j'invente pour te faire plaisir. Je te quitte en espérant qu'en souvenir de tous ces moments passés ensemble, tu auras l'élégance de ne pas me faire payer la dernière séance.
Donc c'est pas une rupture amoureuse. Et est-ce que la rupture avec son psy est quelque chose de plus douloureux que la rupture amoureuse
plus, beaucoup plus difficile en tout cas. Freud a écrit un livre là-dessus sur les analyses interrompues, notamment par la guerre, parce qu'il faut une raison, vraiment une raison massive.
Ouais. Enfin, c'est quand même une bonne nouvelle pour le portefeuille en général.
Oui, enfin, peut-être moins pour...
J'aime bien l'idée d'inventer des rêves pour faire plaisir à son psy.
Ben ça, c'est le B.A.B.A. de la psychanalyse.
Jack, version mot horizon. Un jeu de rôle, c'est un classique au papou, se mettre dans la peau d'un autre, un autre aux antipodes de ce qu'on est, c'est plus rigolo. Jean-Bernard Pouy, écrivain, peintre aussi, mais ça, peu de gens le savent. Infiltré quelques minutes dans le monde parfois impitoyable de l'entreprise. Qui êtes-vous, Jean-Bernard ?
Je suis une DRH, comme on dit.
Une ?
Une, oui, parce que c'est toujours des unes, hein, généralement. C'est rare quand on a un DRH.
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs.
C'est à cause de ressources humaines.
Oui, alors de temps en temps, on les appelle directrices des ressources humaines.
Oui.
Et de temps en temps, j'ai vu ça des relations humaines.
Qu'est-ce que vous préférez, vous ?
Ce qui est pire.
C'est pire, d'accord.
Ouais, moi, j'ai choisi des relations humaines parce que c'est encore plus grave.
Vous avez un nom ?
Madame X. X, il faut pas. Quand même, c'est un document qui atteint le public. Il faut pas trop en dire sur la vie secrète des sociétés, quand même.
Ah d'accord. Donc on ne connaîtra pas votre vrai nom. Ouais. Et alors vous écrivez à qui ?
À Monsieur Albert.
Il a un bon poste chez
vous. Oui, il a un très bon poste. Ouais. Monsieur, c'est en ma qualité de directrice des relations humaines que je vous écris. Cette lettre est pour l'instant confidentielle, mais peut et pourra devenir quasi publique le moment venu. Ou quand vous le jugerez bon ou nécessaire, ce que je vous déconseille quand même avant. Vous êtes, monsieur, un excellent élément. Notre société n'a pas eu un responsable du développement logistique aussi compétent que vous depuis de nombreuses années. Contre toutes les attentes de nos ingénieurs prévisionnistes, vous avez multiplié par 4 les compétences et les résultats de votre secteur. Les dirigeants et actionnaires de notre société vous en remercient. Samedi dernier, vous avez été invité au domicile de notre PDG à un dîner, informel mais délicieux, que l'on pouvait définir plus comme d'apparat que rituel, auquel je participais, auquel participait aussi notre directeur général, le représentant élu des actionnaires, ainsi que 2 fonctionnaires importants du ministère des Finances et de l'Économie. Tous ces décisionnaires étaient, à part vous-même, accompagnés de leurs épouses ou compagnes. Admettez que tout s'est déroulé parfaitement, paisiblement, entre rires polis et douces affirmations. Jusqu'au moment où, le sublime puni mon trachet ayant fait son office, l'Assemblée s'est lancée dans des discussions autres que plan de développement et étapes de restructuration de l'entreprise. Vous n'étiez pas obligé de descendre en flammes l'écrivaine Christine Angot, en des termes un peu trop excessifs. Je pense un peu comme vous, certes, mais je n'aurais pas employé des adjectifs aussi ronflants pour la qualifier. Certes, vous ne saviez pas que Christine Angot est une cousine par alliance de l'épouse de notre président, mais quand même. Vous n'étiez pas non plus obligé de défendre becs et ongles ce pauvre Michel Houellebecq, que tout le monde attaquait peu ou prou, en hurlant que c'était le Flaubert d'aujourd'hui, et que donc tous ceux qui détestaient Houellebecq n'avaient rien compris à Flaubert. Certes, vous ne saviez pas que notre PDG avait conclu ses études par une thèse sur le grand et vénéré Gustave, qui fait encore aujourd'hui autorité. Vous n'étiez également pas obligé d'attaquer bille en tête l'art cinématographique, dans son ensemble, en le qualifiant d'art dépassé, passéiste et ringard. Vous ne pouviez pas savoir que notre président et notre directeur général venaient de prendre des parts prépondérantes dans deux des plus importantes maisons de production françaises. Mais le plus gênant reste dans votre panégyrique exacerbée du PSG. Selon vous, seule équipe de football véritable et crédible en France, alors que vous auriez normalement dû savoir que notre société sponsorise depuis un an le football club de Nantes, dont notre président est originaire.
Oh là là.
Et hier soir, le PSG a écrasé et ridiculisé Nantes. Et ce matin, j'ai reçu un texto de notre président, simple et direct. « Tu me vires le crétin de l'autre soir. » Ce que je fais, et vous comprendrez, par le biais de cette lettre. Tout cela doit rester confidentiel, pour que vous puissiez, avec votre curriculum, retrouver du travail. Si vous ameutez la presse et la population, nos avocats vous colleront une faute grave sur le dos, avec témoignage conséquent. Ce n'est pas la peine de venir lundi. Lundi, sur votre lieu de travail, tout se fera par mail et courrier. Bien à vous, et vive le Football Club de Nantes, Madame XDRH.
C'est violent. À quoi ça tient une carrière hein?
La
c'est
boulette.
Fou. La boulette. Enfin, trois boulettes en une seule soirée.
Et le ballon. De
et le ballon. Il n'a même pas le droit de faire son préavis, quoi. C'est trois mois, non?
Ah non, non, direct dehors.
Direct limogé.
Oui.
Non, mais il y a des boîtes qui vous obligent à faire le préavis, qui vous donnent un bureau, vous êtes tout seul, sans téléphone et tout.
Oh oui, non, mais ça ne sert à rien, ça.
Non, c'est même très violent. Hein? Ouais. Dites-moi, Clémentine, vous êtes Albert?
Oui, je suis Albert.
Et alors?
J'ai déconné.
Ah ben oui, apparemment. Et donc, vous êtes limogé?
Ah oui, je me retrouve sans emploi, c'est terrible.
Ça fait mal, hein?
Ben, ça fait mal, surtout que je consacrais toute mon énergie à ce travail, tout mon temps libre. Alors, j'ai écrit une lettre à la DRH pour essayer de rattraper le coup un peu.
De rebondir, quoi.
De rebondir et puis d'essayer de la convaincre de changer d'avis, quoi.
Ouais.
Alors, je vous lis la lettre que je
lui
ai écrite.
Oui, à Madame X, donc, Jean-Bernard Pouillet.
Madame, c'est avec consternation que je reçois ce jour votre courrier me notifiant mon licenciement. Je suis horrifiée de découvrir que j'ai pu tenir de tels propos lors de la soirée de samedi dernier, dont je ne garde hélas aucun souvenir, la faute au sublime Pouligny-Montrachet. Je ne cherche pas d'excuses, mais je vous dois un aveu. Vous savez que mon engagement dans l'entreprise est total. Je vis seule, je sors peu. Ma vie sociale se résume à saluer l'hôtesse d'accueil lorsque j'arrive au bureau le matin. Aussi samedi, lors de cette soirée presque informelle, chaleureuse, teintée de familiarité. Après le verre de bienvenue, l'apéritif, la liqueur de mise en bouche, le vin, le trou normand, le cognac aux amandes dans un verre ballon, j'ai perdu mes repères. J'étais déboussolée. Au milieu de cette brillante assemblée, j'ai soudain ressenti le besoin d'être aimée.
Ah oui, ouais. Ça arrive. Hein. Ah, ça vous arrive jamais à vous, Jean-Bernard, hein?
Voilà la triste vérité, Madame la directrice. J'ai dit tout cela pour faire mon malin. C'est inqualifiable, j'en conviens. Je dois la vérité de vous avouer que je ne connais rien à la littérature.
Ah.
Je ne sais même pas qui est cette Christiane Angot.
Ah oui,
je n'ai rien lu de Michael Houellebecq. Le seul écrivain que je sois capable de nommer, c'est Jean d'Ormesson.
Oh, c'est déjà pas mal.
Oui.
C'est moche, je sais. Sur mon CV, j'avais marqué lecture parmi mes hobbies pour faire bien. Quelle importance à présent. Le soir, quand je rentre épuisée après une journée de travail, je joue au poker en ligne ou je regarde des émissions de télé-réalité. Mais comment avouer ça au président, à toutes ces belles dames raffinées, à ces hauts fonctionnaires portant rosette? Quant au foot, c'est pire, je n'y connais rien du tout.
Encore moins qu'à la littérature.
Encore moins qu'à la littérature.
C'est possible, ça, oui.
Même le baby-foot, je ne sais pas y jouer.
Ouais.
J'ai cité le PSG, comme j'aurais pu citer n'importe quel autre club. Le seul joueur de foot que je puisse nommer, c'est Roger Federer.
Il y a erreur, je crois.
Je plaide coupable, j'avoue mon ignorance, Madame la directrice. Mon inculture est un puits sans fond. Si vous y laissiez tomber une pièce, il faudrait un temps fou pour l'entendre toucher le sol en contrebas. Est-ce une raison suffisante pour me limoger? Je vous supplie de prendre en considération mon jeune âge, mon dévouement pour l'entreprise, ma sincérité et le Puligny, mon trachet, et de bien vouloir accepter mes excuses et reconsidérer votre décision. Respectueusement vôtre, Albert.
C'est une bonne lettre, hein, sincère.
Ouais, je suis un peu touché quand même.
Ah, quand même, vous voyez.
Je crois que j'ai le rembauché comme balayeur ou hôtesse d'accueil, avec une jupe. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You only tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. If you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. You can't make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me.
Peut-être, par Cake. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro François Strossard et la bande des papous du jour. À suivre, une histoire tout en SMS et le DLA proposé par Serge Joncourt aux experts Dominique Muller, Sophie Divry, Gérard Mordillat et Jacques Vallée. Alors voilà la situation, il est assis, téléphone mobile en main, il pianote sur le clavier. Lui, c'est Ricardo Mosner et il nous raconte une histoire tout en SMS, enfin... Bon, c'est vous ou un personnage de fiction, Ricardo?
Bah oui, c'est moi. Je n'ai fait que copier, mais c'est SMS.
Oui.
10h du matin, lundi. Coucou Frida. Je me suis levé tôt, réveillé par la machine à laver préhistorique de ma voisine. Elle est mal calée, pas ma voisine, la machine, et collée au mur de ma chambre. Alors, j'en ai profité pour t'appeler puisque tu m'avais dit que tu étais joignable seulement les matins. Et puisque tu m'avais reproché que les matins, je dors. Pas toujours, la preuve, c'est SMS, bisous. 10h15, toujours lundi, toujours Frida. Récoucou, j'ai pensé que peut-être tu étais parti acheter du pain sans gluten et que tu serais déjà de retour, car Naturalia est en bas de chez toi, mais non. Donc, c'est pas vrai que les matins, comme tu l'avais affirmé, tu es là, at home, disponible pour recevoir mes appels. Bon, je rappellerai un peu plus tard, pour une fois que je suis levé le matin et raccord à tes horaires, bref. A tout de suite. 11h45, lundi, à Frida. Grrr, arg. C'est énervant à la fin. J'aime pas avoir des mauvaises pensées, mais soit ce sont des balivernes, que les matins tu es là, soit tu ne veux pas prendre le téléphone. Je sais, tu n'aimes pas t'attarder au téléphone, moi non plus. Mais c'était pour prendre rendez-vous avec toi, Frida, j'ai des choses importantes à te dire. 12h20, lundi. Bon, ce n'est plus le matin, chère Frida. Alors évidemment, maintenant tu vas pouvoir me dire, je t'avais dit que, je te cite, « I am 100% joignable every morning, my dear. » 12h45, lundi. Puisque tu n'es toujours pas là, Frida, et de toute façon, si tu es là, bientôt tu devrais partir travailler, si c'est vrai que tu travailles, parce que je commence à me poser des questions. Mais si tu dois partir travailler, là je comprendrai bien que tu n'as pas le temps de prendre le téléphone. Je suis très embêté dans mon impossibilité de communiquer avec toi. 20h45, le soir du même lundi.
Le temps a passé.
Ah oui, ah oui. Ok, Frida, j'ai compris. Tu étais avec quelqu'un ce matin, donc tu n'as pas pris le téléphone. Puis tu étais si bien avec ce quelqu'un que tu n'as pas pris la peine de répondre à mes short message service. À un moment, je me suis dit, j'ai tort d'avoir des mauvaises pensées. Si ça se trouve, elle a eu un pépin. Mais je vis qu'à 15h30, tu as posté sur Facebook ta photo avec tes collègues du club des poètes réapparus, tous des garçons. Je ne savais pas que tu t'intéressais à la poésie. Tu m'avais dit que tu enseignais les mathématiques aux adultes bipolaires. Bref, tu m'as assez baratiné comme ça. Si ces non-échanges doivent devenir amers et désagréables, mettons un point final à notre relation. Minuit, ce même lundi. Écoute, Frida, je suis désolé, je n'ose pas t'appeler. Ce SMS pour m'excuser, j'ai deux numéros de téléphone à toi. Un mauvais, où j'ai appelé sans pouvoir te joindre. Erreur de numéro, c'est celui de ma voisine qui ne répond jamais en voyant s'afficher mon numéro, car elle sait que j'appelle pour demander d'arrêter sa machine à laver. Et un autre, malheureusement, les bons, les tiens, où j'ai laissé tous mes affreux et injustes SMS. Bon, j'espère que tu sauras me pardonner. Remarque que, de mon point de vue, mes messages étaient tout à fait justifiés, vu mon état de désespoir. À très vite, je voulais te dire, j'ai honte de l'écrire, mais c'est une évidence. Tu peux pas s'imaginer à quel point je t'aime.
Oh là là, oui.
Ils font Ricardo petit à petit, d'année en année.
Ben parce que c'est un sentimental, Ricardo.
Ah ben oui,
c'est un amoureux, quoi. Qui a pas toujours les moyens.
Un peu parano et chalour.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête. Le DLA avec Serge Joncourt, maître du diagnostic du jour. Serge Joncourt, tout récent prix interallié pour son roman « Repose-toi sur moi ». On vous a parlé tout de suite de ce roman dès sa sortie en septembre. Et pas seulement parce qu'on aime Serge, pas seulement parce qu'il est papou depuis une bonne quinzaine d'années, mais parce que son livre est formidable. Voilà, j'ai osé l'adjectif. Un vrai roman, une vraie histoire d'amour. Repose-toi sur moi, couronné par l'interallié. On est très heureux pour Serge. Aujourd'hui, Serge Joncourt tend un piège à ses amis papous, Dominique Muller, Gérard Mordia, Sophie Divry et Jacques Vallée, un piège littéraire anonyme, sous la forme d'une vingtaine de lignes extraites d'un livre de sa bibliothèque. Mais qui en est l'auteur? Telle est la question à laquelle il faudra répondre. Serge Joncourt nous fait la lecture.
C'était comme chez les oiseaux, il leur fourrait directement leur voix dans le gosier. Quand c'était raté la première fois et que la voix n'entrait pas au bon moment, il fallait recommencer. Et c'est là que c'était beau à voir. Tout se mettait à reculer. Les morts revenaient à la vie et reprenaient à reculons leur place dans la société. On appuyait sur un bouton et tout s'éloignait. Les voitures reculaient à l'envers et les chiens couraient à reculons et les maisons qui tombaient en poussière se ramassaient et se reconstruisaient d'un seul coup sous vos yeux. Les balles sortaient des corps et retournaient dans les mitraillettes. Et les tueurs se retiraient et sautaient par la fenêtre à reculons. Quand on vidait l'eau, elle se relevait et remontait dans le verre. Le sang qui coulait revenait chez lui dans le corps. Et il n'y avait plus trace de sang nulle part. La plaie se refermait. Un type qui avait craché reprenait son crachat dans la bouche. Les chevaux galopaient à reculons et un type qui était tombé du septième étage était récupéré et rentrait dans la fenêtre. C'était le vrai monde à l'envers. Et c'était la plus belle chose que j'ai vu dans ma putain de vie.
C'est vrai que ça doit être bien de pouvoir récupérer son sang quand on a tout perdu. Non, Jacques Vallée, c'est oui. Poétique.
C'est un bel écrivain de l'imaginaire qui peut se permettre de dénirer totalement à longueur de page, de raconter n'importe quoi à n'importe quel moment.
Ouais.
Il y croit et il entraîne son lecteur dans une espèce d'apothéose de joie d'être, d'écrire. Et il peut délirer comme ça pendant des pages, donc c'est bien.
Et il ne va rien se passer d'autre?
Ah si, il se passe des tas d'événements, mais entre-temps, ça lui permet de faire des phrases qui, mises les unes au bout des autres, font quand même des gros volumes.
Ah bon, Dominique, vous avez un air égaré.
Je grimace parce que je ne vois pas ça comme ça du tout. Non. Je vois ça plutôt comme un écrivain américain qui a fait du cinéma, qui était scénariste, et donc il est en train exactement de raconter comment ça se passe dans une salle de montage où on monte les choses à l'envers et voilà, et où on voit les images se remettre à l'envers. Voilà.
Et j'ai l'impression que Sophie acquiesce. Sophie Livry.
Oui, ça me touche beaucoup. Oui, ça me... Oui. Non, mais sauf l'allusion aux oiseaux que je ne comprends pas trop. Mais en effet, il décrit tout simplement ce que c'est que Grand Bobinet. Voilà. D'ailleurs, je ne trouve pas ça très intéressant parce qu'il répète toujours la même chose,
oui,
à reculant, à l'envers. Sauf à la fin, c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie. Il n'y a pas un style non plus.
In my fucking life, c'est pour voilà. ça que je dis c'est un écrivain américain. Ouais.
Donc c'est le doublage où il y a un doublage de son. Donc c'est les années 40-50.
La voix dans le gosier, c'est ça. C'est le, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais quand on met le
quand on synchronise la voix et l'image, c'est presque un doublage de dessin animé. Non.
Sauf qu'il y a quand même toute l'humanité dans les derniers mots. La plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie,
bien
et ça suffit.
Oui, bien sûr. Vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec Sophie et avec Dominique? Vous les trouvez un peu méprisantes par rapport à ce texte, Jacques?
Non,
aura des pâquerettes peut-être.
Mais c'est pas simplement une description, je pense, de rembobiner un film. Enfin, on pense tout de suite à ça, mais je pense pas que c'est...
On va progresser après. Hein. Gérard Mordillat, alors vous qui êtes cinéaste, on est dans une salle de montage ou pas?
Non, je suis pas persuadé. Bien sûr, celui qui écrit ça connaît le cinéma et connaît la leçon du cinéma. Mais là, il nous manque un morceau qui est le début, puisque ça prend « C'était comme chez les oiseaux ». Il leur fourrait directement leur voix dans le gosier. « C'était comme ». Donc, il vient de nous raconter quelque chose. Voilà. Ouais. Et puis, la fin, c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie. Et là, le roman commence. Et le roman commence, comment il va remonter sa vie à l'envers, à mon avis.
Donc, c'est un chapeau, en quelque sorte.
C'est
ça.
Un chapeau, une métaphore. Et je pense que c'est un écrivain. Je ne vois pas que ça soit spécifiquement un cinéaste. En tout cas, c'est un écrivain et qui est dans le domaine de l'imaginaire. Et de...
D'accord. Le poète dont vous parlez, auquel vous pensez, Jacques Vallée, il écrit en français? Enfin, c'est pas forcément un poète, mais c'est une écriture un peu poétique.
C'est pas un poète, c'est l'imaginaire, c'est la liberté de l'imaginaire. Lorsque la main libère l'imaginaire, c'est formidable, parce qu'il suffit de se laisser entraîner par sa main, et on écrit des gros romans. Mais ça peut être une traduction. Ce n'est pas obligatoirement en français, il n'y a rien qui puisse expliquer que ce soit exclusivement français. Donc ça peut être une traduction, une bonne traduction.
Alors est-ce que la traduction Dominique Fucking Life pour putain de vie vous pousse vous aussi vers les États-Unis, Jacques Vallée?
Oui.
Pour vous aussi, Gérard, si ce n'est pas français?
Si ce n'est pas français, oui, ça peut être de l'anglais à cause de tous les « et ». Et c'est caractéristique de la littérature anglaise. And, ce n'est pas du tout une faute en anglais de l'écrire comme ça. Et là, il y en a beaucoup. Donc, peut-être, mais en tout cas, la traduction est une très belle traduction. Parce que, vous voyez, les balles sortaient des corps et retournaient dans les mitraillettes, et les tueurs se retiraient et sautaient par la fenêtre à reculons. On entend plutôt des virgules en français. C'est-à-dire, les balles sortaient du corps, retournaient dans les mitraillettes, les tueurs se retiraient, sautaient par la fenêtre à reculons.
C'est plus
dynamique. Là, on a les « and » qu'on entend. Donc, c'est vraisemblablement une traduction et une traduction de l'anglais.
Bon, on progresse à pas de géant.
En tout cas,
Sophie,
il regarde un film, à mon avis, à reculons, enfin, plusieurs rushs, parce qu'il est dans la cabine, en train de regarder ce que font les magiciens. Lui, il est tout jeune, il est épaté par ça. C'est un roman d'apprentissage, c'est un moment donné où il va enfin se raccrocher à un travail, c'est une révélation. Mais en fait, ce qu'il regarde est quand même assez sanglant, hein, parce que c'est les morts.
C'est un western, en fait.
Le sang, les chevaux, le crachat qui rentre dans la bouche.
C'est un peu dégoûtant,
fait les images plus fortes, mais alors est-ce que c'est parce que la période, c'est dans une période assez guerrière ou post-guerrière?
Alors, de quelle période parle-t-il justement, Dominique Muller?
Époque. Je dirais les belles années du cinéma américain, quand un auteur et un écrivain étaient appelés à Hollywood et pouvaient encore s'émerveiller de la manière dont ça fonctionnait, c'est-à-dire les années 45-55, quoi.
Et si on est dans le western, on est chez John Ford, avec John Wayne.
Oui, ou alors c'est le cinéma grand spectacle, quoi. Mais c'est pas le cas, mais c'est Cécile B2000, enfin, qui d'ailleurs, ce sont des gens qui ont fait appel à des écrivains.
Moi, je pense que c'est plutôt un auteur qui est connu comme auteur de polar. Parce que, entre les voitures, les balles qui sortent du corps, les mitraillettes, le sang qui coule, etc., etc. Le type qui avait craché, reprend un crachat dans la bouche. Donc on est là dans l'époque où il y a des crachoirs, à mon avis. Bon.
Enfin, maintenant, les gens crachent par terre, ça ne les dérange pas.
Voilà, hein. Et surtout, il y a cette fin, pour moi, caractéristique du style polar, c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie. Ça, c'est série noire.
Terrible. Ça fait James Cagney, non ?
Oui, absolument. Ouais. C'est plutôt ça, c'est plutôt Howard Hawks, c'est plutôt des gens comme ça, c'est pas Ford.
Ah non, mais je disais Ford parce qu'il avait été fait allusion par Dominique au western, donc je trouvais qu'il était emblématique quand même. Des...
Oui. Vous voyez, on entend ça et on voit John Garfield, ça oui, très bien.
Jacques Vallée.
Mais Sophie a raison, c'est une époque qui est marquée par la violence et ça se peut être la période de la dernière guerre parce que c'est pas simplement du polar. Les maisons qui tombaient en poussière et se ramassaient, c'est les bombardements. Ah. Les balles qui rentrent dans les mitraillettes, c'est pas simplement les gangsters.
C'est pas forcément Al Capone.
Oui, c'est pas du tout Al Capone. Et donc il y a quand même toute cette atmosphère un peu tragique qui est dedans, écrite d'une façon très légère, enfilée les unes derrière les autres. Mais il y a ce côté tragique qui est présent.
Mais alors, dans ces cas-là, Sophie Divray, est-ce qu'on est toujours dans le cinéma ou c'est quelqu'un qui, comme le disait Gérard Mordillat, fait un petit préambule et puis va se lancer dans le récit de sa grande guerre, peut-être ?
Oui, c'est vrai que c'est l'idée que ce soit un chapeau et qu'on dit, à partir de maintenant, je vais rembobiner ma vie et expliquer. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi, au fond, peut-être un piège dans le sens où c'est quelqu'un qui écrit la biographie d'un jeune homme, façon Martin Eden, roman d'apprentissage, bon, du coup, année 45-55, en effet. Et donc, c'est un récit classique, c'est pas vraiment... là, moi, je pensais au début que c'était autobiographique, mais au fond, ça peut être quelqu'un qui se met dans la peau d'un jeune homme qui découvre le cinéma, et ça serait, dans ces cas-là, une espèce de ode à Hollywood. Mais c'est vrai que, comme c'est quand même très macabre, le suicider, le crachat, les maisons... Je pense que c'est quand même plutôt quelqu'un qui raconte comment le cinéma lui a sauvé la vie après la guerre. Alors peut-être que c'est un exilé européen qui arrive à Hollywood.
Elle gamberge, Sophie.
La personne qui écrit ça est quand même très optimiste parce que il trouve ce qui conclut, c'est là que c'était beau à voir. Ouais. Les morts revenaient à la vie, reprenaient leur place dans la société. Donc c'est quand même plein d'optimisme de croire que
de reprendre sa place dans la société,
c'est le bonheur absolu. Ouais. Bon. C'est ce qui justifie ce style vivant, quoi. Il se laisse aller.
Dominique Müller, c'est un romancier qui écrit ça ou c'est un journaliste?
Un vrai romancier.
Un vrai.
Ah oui, qui est fasciné par l'image, mais que lui, c'est un vrai. Alors, je pensais à un moment que ce pouvait être une femme, mais une femme ne dirait pas que j'ai vu dans ma putain de vie. Je ne crois pas. Sinon, évidemment, parce que je pensais à des choses comme reflet dans un œil d'or,
ah,
etc.
Oui. Oui. Si on réécoutait.
C'était comme chez les oiseaux. Ils leur fourraient directement leur voix dans le gosier. Quand c'était raté la première fois, que la voix n'entrait pas au bon moment, il fallait recommencer. Et c'est là que c'était beau à voir. Tout se mettait à reculer. Les morts revenaient à la vie et reprenaient à reculons leur place dans la société. On appuyait sur un bouton et tout s'éloignait. Les voitures reculaient à l'envers et les chiens couraient à reculons et les maisons qui tombaient en poussière se ramassaient, se reconstruisaient d'un seul coup sous vos yeux. Les balles sortaient des corps et retournaient dans les mitraillettes et les tueurs se retiraient et sautaient par la fenêtre à reculons. Quand on vidait l'eau, elle se relevait et remontait dans le verre. Le sang qui coulait revenait chez lui dans le corps, il n'y avait plus trace de sang nulle part. La plaie se refermait. Un type qui avait craché reprenait son crachat dans la bouche. Les chevaux galopaient à reculons et un type qui était tombé du 7e étage était récupéré et rentrait dans la fenêtre. C'était le vrai monde à l'envers. Et c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie.
Bah, c'est évident, on est dans une salle de synchro. Donc, ce qui manque avant, c'est de voir des acteurs synchroniser une image. Et puis, c'est là qu'ils découvrent justement comment ça peut être à l'envers. Mais à mon avis, là, il a assisté peut-être à plusieurs séances de synchro.
Oui, et donc, différents films. Oui. Est-ce que vous aimeriez lire ce livre, Dominique Müller ?
Et oui, parce que c'est un texte formidablement joyeux, qui a foi dans la vie, c'est très très sympathique en fait. C'est très généreux, je trouve, comme écriture, extrêmement simple par ailleurs.
Qu'est-ce qui va se passer après ?
Après, on va voir comment, fort de cette découverte, parce que manifestement, ça ressemble, toute proportion gardée, à la première page de l'éducation sentimentale.
Ah bon ?
Qui pour moi est très cinématographique aussi, justement, oui. Puisque c'est des plans qui se resserrent. Et puis, ce fut comme une apparition, donc là, c'était la plus belle chose que j'ai vue dans ma putain de vie. C'est un début pour ça. Et après, je pense qu'il y aura sûrement des déboires.
Et bon donc, début, quoi. C'est un très vieux monsieur ou une très vieille dame, mais vous penchez plutôt pour l'homme, qui raconte ça au soir de sa vie.
Ah non, pas du tout. C'est quelqu'un qui raconte une histoire. Ouais. Deux noms me viennent en tête, dont un qui est une pure fiction. Il y a évidemment la possibilité que ce soit un écrivain qui raconte, en tant que narrateur, ses propres débuts ou sa vie dans le cinéma. Mais je penche aussi pour un vrai roman.
On serait dans une autobiographie, Gérard Mordillat.
Une autobiographie, pas au sens strict. Je pense que c'est un roman nourri de beaucoup d'éléments autobiographiques du personnage, mais pas réellement son autobiographie. Mais il parle de son expérience. Et vraisemblablement, pour moi, il parle de son expérience de la guerre. Parce que les allusions qu'il fait, ce qui l'intéresse au cinéma, etc., moi, je pense que ce qui est au centre du texte, c'est les balles qui sortent des corps, les mitraillettes, les fenêtres qui s'écroulent, etc. Et le sang qui coule, je pense que c'est son expérience de la guerre.
Oui. Bon. Et des gens qui reviennent dans la société aussi. Oui. Une fois disparus, ils reviennent dans la société. C'est aussi une nostalgie de tous ces morts qu'il y a pendant une période.
C'est pas très gai tout ça. Hein,
si, parce qu'il y a une vitalité, un plaisir de vivre de la personne qui écrit ça.
Ouais.
C'est pas du tout nostalgique.
Quelque chose à ajouter, Sophie Divry.
Oui, je pense que c'est quelqu'un qui est très positif, heureux de voir qu'on peut remonter le temps et effacer le passé douloureux. Et la phrase « on appuyait sur un bouton et tout s'éloignait », c'est pour lui, c'est la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Bah, c'est pour ça que je pense que le roman d'apprentissage... Je pense qu'après, ce qui va se passer sera peut-être plus classique dans l'écriture.
Moins intéressant, peut-être. Ouais. Allez, des noms, Dominique Muller. C'est pas facile de donner des noms.
C'est pas la guerre, mais je dirais Fitzgerald, le dernier nabab.
Ah, Scott Fitzgerald. Gérard Mordillat, ce roman de guerre, enfin qui parle de guerre.
Oui, j'avais marqué aussi Scott Fitzgerald parce que ça parle très directement du cinéma.
Oui.
Mais je pense aussi à Norman Mailer qui écrit à la manière de souvent. Donc ça peut être ça. Un Norman Mailer qui aurait lu Dashiell Hammett et Chester Himes. Oui. Norman Mailer.
D'accord. Sophie Divry, un nom.
Ça pourrait être Charlie Chaplin qui racontait ses mémoires. Ou
Il les a écrites, elles ont été écrites.
Je
ne
vois pas l'écrire dans ma putain de vie. Voilà. Mais,
Charlie Chaplin.
Ou Joyce Carol Oates. Dans ces cas-là, si on prend la fiction totale.
Oates ou Chaplin. Une petite pièce sur Oates plutôt, non? C'est ça. Jacques Vallée.
Moi, je pense à Henri Miller. Et puis, j'ai pensé aussi à Faulkner, à cause du côté cinéma.
Ah oui. Bah, finalement, vous avez trouvé plein de noms. Hein. Un Scott Fitzgerald pour Dominique Muller, un Norman Mailer pour Gérard Mordillat, Henri Miller ou Faulkner pour Jacques Vallée. Quant à Sophie, elle opte pour Joyce Carol Oates ou éventuellement Charlie Chaplin, pourquoi pas. Alors Serge Joncourt, vous avez préparé une liste de trois noms. Est-ce qu'il y a un des noms que je viens de vous donner?
Non.
Oh là là, zut.
Hélas.
Pourtant, on en a dit beaucoup en plus. Hein.
Oui. Vous avez trouvé qu'ils avaient bien raisonné ou pas du tout, sans nous donner d'autres indices pour le moment?
Oui, c'est assez sidérant dans cette position d'observateur, puisque finalement, tout le monde frôle et étonnamment, à un moment, s'écarte. c'est très curieux.
Ouais. C'est plus simple que ça, vous voulez dire?
Peut-être. D'une certaine façon, oui, ça l'est. Oui.
Donnez vos trois noms. Oui.
Alors, Vernon Sullivan.
Ah oui.
Émile Ajar. San Antonio.
Oh. San Antonio. Alors, on a joué il y a quelques mois avec San Antonio, un expert contre Faussaire. Ça ressemblait pas à ça, mais moi, j'ai pas tout lu dans San Antonio. Vous non plus, Dominique Muller. Alors, on vous propose Vernon Sullivan, Émile Ajar, San Antonio. Bon, Sullivan et Ajar étant des pseudonymes, hein.
Moi, est-ce que son autre ne l'est pas?
Alors, si, c'est vrai. Alors, on va dire quand même, Vernon Sullivan, c'est Boris Vian, Émile Ajar, Romain Gary, San Antonio, Frédéric Dard. mais on vous propose la version pseudo. Ça veut bien dire que c'est tiré d'un roman signé sous pseudonyme, Jacques Vallée.
Moi, je choisirais Vernon Sullivan, j'irai cracher sur vos tombes.
Ah, oui. Alors, un Vernon Sullivan pour Jacques Vallée.
Parce qu'il a le côté, Boris Vian a ce côté dynamique, vivant, tout ce qu'on a dit.
Écriture vive, oui.
Oui,
oui. Peut-être, Dominique Muller.
Moi, je prendrais Émile Lajard pour une très mauvaise raison. Parce que je ne vois pas comment il serait tombé dans la tête de Serge autrement, si ce n'était pas vraiment le livre qu'il avait eu sous la main. Je ne l'imagine pas penser à Émile Lajard d'une manière ou d'une autre.
Ah oui, ah oui, donc ça,
c'est de la haute psychologie.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un argument par rapport à la personnalité de Serge Joncourt,
qui va avec le texte, si vous voulez. C'est qu'il est à l'envers l'argument lui-même.
Oui, parce que d'habitude il nous sort facilement des Miller, des gens comme ça.
Voilà, je vois pas, je le vois pas chez lui feuilletant sa bibliothèque et tombé sur Émile Lajard. Donc c'est vraiment lui, je veux dire.
Ah oui, oui, oui. Oh là là, ça va loin, la pensée de Dominique.
Je précise que je n'ai jamais mis les pieds chez lui et que c'est peut-être recouvert d'Émile Lajard. Pas tellement d'ailleurs, de toute façon. Enfin bon.
Gérard Mordilla.
Moi, je suis aussi tenté par Boris Vian, par Vernon Sullivan. Mais en même temps, attendez, j'hésite parce que justement, tous ces « et » me font penser aussi, évidemment, à Gary, qui avait une culture anglo-saxonne. Allez, je vais tenter le coup avec Ajar.
Émile Ajar, Romain Gary, donc.
Oui.
Ouais. Là, c'est pas facile, hein. Là, il essaie vraiment d'être piégeux, Serge. D'habitude, c'est plutôt un gentil garçon qui nous facilite la vie, mais là.
Non.
Et pour Sophie Divry, alors, qui connaît peut-être moins la psychologie de Serge Joncourt que nous tous.
Moi non plus.
Personne n'a mentionné sans Antonio Frédéric.
Non, mais je prends sans Antonio pour le plaisir de le prendre. C'est ça, si jamais. Parce que pour la piste roman policier que va exposer Gérard au début, le côté, et du coup, après, ça démarre. Voilà.
Oui, c'est
plutôt
vrai que c'est
quelque chose de plus, Boris Vian, oui, le cinéma, ou Romain Gary, c'est vrai qu'il y a, tout ce côté guerre et puis positif. Hein, l'optimisme humaniste de Romain Gary. Mais peut-être que c'est simplement un roman policier, et dans ce cas, un sans Antonio, mais alors, bien tenu, quoi. Il se tiendrait bien, quand même.
Ah non, mais c'est bien écrit.
Écrit très bien.
Oui, Frédéric Dard, c'est très bien.
Surtout dans les premiers romans, puisque on a payé pour savoir. Voilà. Là, surtout, c'est écrit à la première personne, qui est une caractéristique de sans Antonio.
Puis alors, fourré directement dans le gosier, voilà, pourquoi pas. Allez, un sans Antonio.
C'est très partagé, hein, Serge Joncourt. Nous avons donc... un, Vernon Sullivan, Boris Vian, c'est pour Jacques Vallée. Deux, Émile Ajar, Romain Gary, ce sont les choix de Dominique Muller, de Gérard Mordilla. Un, sans Antonio, Frédéric Dard, c'est le choix de Sophie Divry. Le monde se partage en trois.
Et oui. Il y a nécessairement un vainqueur.
Ou deux.
Oui, en l'occurrence, il y en a deux.
Et donc, c'est Émile Ajar, Romain Gary. Et l'argument de Dominique Muller, psychologique par rapport à vous, était recevable.
À mon avis,
c'était pas un hasard que vous ayez du Gary chez vous.
Que j'ai du Ajar.
C'est pas Ajar, j'ai dit Ajar.
Alors, c'est dans quoi?
Eh bien, c'est La vie devant soi.
Tout simplement.
Tout simplement, et d'ailleurs... qu'on a tous, je pense, chez soi, pour le coup.
Pas moi,
non. Non.
Pourquoi ce choix? C'est un passage que vous aimez particulièrement?
Alors, j'aime ce roman.
Oui.
J'aime Émile Ajar, en l'occurrence, Paul Pavlovitch, parce que là, c'est une situation assez cocasse, où on a un pseudonyme, un auteur sous pseudonyme, qui existe pour de vrai, et qui est aussi un auteur...
Sous son vrai nom.
Qui mérite d'être lu... puisqu'il a écrit des romans, en dehors de cette expérience qui est relatée, en fait, parce que ce n'est pas une expérience courante de recevoir un prix Goncourt.
Deux fois, oui.
Un livre qu'on n'a pas écrit.
Oui.
Et donc, Paul Pavlovitch, qui est d'ailleurs, qui va très bien, qui est le petit neveu de Romain Gary.
Oui.
Bon,
oui.
Voilà. Et La vie devant soi, on connaît tous à peu près le propos. C'est un jeune enfant arabe qui vit chez cette Madame Rosa, une femme alors âgée, alors bon, elle a que 65 ans, mais enfin, elle est très malade, elle va pas très bien. Et en particulier, il y a cet escalier au sixième étage où elle tient une sorte de pension de famille, on pourrait dire, pour enfants sans parents, qui sont en fait des enfants de prostituées et qui n'ont pas été reconnus, ou alors dont certaines des mères payent une sorte de... s'acquitte d'une sorte de forfait pour que Madame Rosa s'en occupe. Bon, le petit Momo, puis personne ne paye pour lui, mais elle le garde quand même. Enfin bon, ouais. Et il voit bien, alors il y a une forme de tragédie, parce que cette sixième étage, pour cette pauvre femme, il devient de plus en plus dur à monter. Et puis quand elle a peur, au paradoxe, elle descend à la cave, comme elle le faisait pendant la guerre, où elle a installé une sorte de... Enfin bref. Donc ça pourrait être tragique, et en même temps, il y a ce style qui est un peu... infantile, on va dire, et frais. Et cette scène en particulier où Momo vient de rencontrer... il était devant les vitrines des grands magasins à regarder un cirque de marionnettes, comme ça, en vitrine, à la veille de Noël. Il s'est mis à chialer en voyant ça, tellement c'était beau. Et une femme est attendrie, il lui paye une glace, et puis elle disparaît, puis il se met à la suivre. Et cette Nadine, qui est une jeune femme blonde de 25 ans, effectivement, comme Gérard l'a bien vu, et fait de la synchro, c'est-à-dire qu'elle fait des voix sur des, sur des films qui sont traduits de l'américain. Elle prête sa voix à des comédiens. Donc, bon, le cinéma, tout ça, on en a parlé. Alors, lui découvre ça quand il la suit. D'abord, il entend dans le hall d'immeuble des coups de mitraillette, des coups de feu, etc. Il ne sait pas bien ce qui se passe, en fait. C'est qu'ils sont en train de synchroniser un film et du coup, ils reviennent sans arrêt au début pour recommencer la synchro. Bref, et puis hop, cette femme disparaît et lui retourne chez Madame Rosa, où ça devient de plus en plus pénible, elle est de plus en plus malade, elle va de moins en moins bien. Et enfin, je vous la fais courte.
Ah non, pas du tout. Mais d'ailleurs, on est suspendu à vos lèvres parce qu'on a l'impression que vous avez relu le roman ce matin.
Non, je ne l'ai pas relu. Et cette Nadine, la belle blonde, là, il va la retrouver à la fin. Et d'une certaine façon, on peut comprendre que c'est chez elle et son mari qui est alors psychiatre ou pédiatre, enfin médecin, enfin qui est médecin, chez son mari qui est médecin. Et c'est chez eux, très probablement, qu'il va, à partir du moment où Madame Rosa est morte, chez eux qu'il va avoir une forme de rédemption et que l'histoire va se poursuivre. Donc voilà, ça c'est alors je me suis un peu amusé parce qu'effectivement...
Dans le découpage,
c'est,
oui.
C'est-à-dire que là on est une situation où lui-même découvre quelque chose de totalement inattendu, surprenant, qu'il ne comprend pas au début,
Bah écoutez, bravo pour le choix. Bravo à Dominique Muller et Gérard Mandilla, gagnant au second tour. Ça fait toujours plaisir, non?
Bah bien sûr. On se réserve pour le sprint et on l'emporte sur la ligne.
Des papouilles dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Stressart avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard. À podcaster sur franceculture.fr et puis rejoignez-nous sur la page Facebook des Papous. Amis virtuels, certes, mais quand c'est sincère, ça fait chaud au cœur de s'y retrouver. On vous donne rendez-vous vendredi prochain, 9 décembre, pour les Papous en public au studio 105 de la Maison de la Radio de 20h à 22h30. Et puis bien sûr, prochain numéro des Papous dimanche sur les ondes. Au revoir, passez un très bel après-midi en bonne compagnie à l'écoute de France Culture.